Il y a des différences culturelles qui sont fondamentales et ça se traduit dans les liens business qu'on a avec évidemment nos clients et partenaires japonais. C'est un marché assez difficile, hein. On ne peut pas l'aborder comme ça de but en blanc. Il faut avoir une réflexion en amont. La stratégie qu'on a adoptée, c'est qu'on a travaillé 5 ans hein, avec nos associés, mes deux collègues associés avec lesquels j'ai monté la boîte. On a travaillé pendant 5 ans dans un groupe japonais. Donc on est déjà culturellement, on avait déjà acquis toute la partie culturelle business pour faire effectivement des affaires au Japon. Il faut impérativement pouvoir travailler avec un intermédiaire qui, lui, a la légitimité, a déjà le réseau et la confiance des clients qu'on veut prospecter. Une boîte japonaise, si elle ne voit pas un intérêt concret de travailler avec vous et si elle ne vous connaît pas à l'avance, eh ben c'est très difficile ne serait-ce que de déclencher un meeting. Donc il faut y aller avec des produits qualitatifs parce que le niveau de qualité attendu par des clients japonais est extrêmement fort. Ce qui est aussi important, c'est que c'est très long. Il faut d'abord bâtir la confiance, il faut y aller progressivement, que les interlocuteurs business apprennent à nous connaître, à apprécier notre réactivité, notre professionnalisme, avant de pouvoir effectivement avoir du business sur le long terme. Mais une fois que le business est démarré et que la confiance est là, c'est quelque chose qui se pérennise sur le long terme.
Vous savez comment on travaille en France, vous savez maintenant comment on travaille au Japon. Quelle différence fondamentale y a-t-il?
Ça se traduit en deux mots. La patience et la confiance, ça c'est la différence fondamentale. Il faut absolument pouvoir montrer que notre interlocuteur business peut avoir confiance en nous, à notre réactivité, à la qualité de ce qu'on fournit.
Alors, est-ce que la crise du Covid a eu un impact sur vos activités au Japon, sur votre collaboration avec le marché japonais ?
Au Japon, le business a vraiment continué. C'est même là qu'il s'est accéléré pour nous, en fait. Nous, on a continué à délivrer nos clients japonais. On a même répondu à des appels d'offres qui ont été démarrés alors que la période de confinement a été opérée en Europe. Et aujourd'hui, on est sur les phases finales, justement, de ces appels d'offres pour être qualifiés sur des deals significatifs. Donc, le Japon ne s'est pas vraiment arrêté. Alors, ils ont mis beaucoup de gens en télétravail. Le travail de fond a continué. Et quand nous, on sortait à peine du confinement, eux, justement, accéléraient ces appels d'offres. Ils ont abordé cette sortie de crise beaucoup plus rapidement que nous.
Il faut dire que vous travaillez dans un secteur assez particulier qui est celui de sécuriser les objets connectés. Et pendant le confinement, les cyberattaques se sont accrues. C'est peut-être ça qui a aidé votre business à continuer ?
Alors exactement, c'est aussi un facteur. Aujourd'hui, l'avènement de la 5G et la mise en place par des grands opérateurs en Asie et notamment les plus gros opérateurs japonais de réseaux cellulaires pour les objets connectés, c'est des investissements massifs dont il s'agit. Aujourd'hui, donc, c'est vraiment une révolution en marche qui est avant tout opérée par l'Asie-Pacifique. Le Japon a continué à accélérer. Donc on a continué nos activités. Effectivement, c'est très lié à la nature de notre business. Nous, on fait du logiciel pour sécuriser et gérer à distance les objets. Donc ce qui est d'autant plus pertinent quand les opérateurs investissent dans des réseaux d'objets connectés qui vont permettre ces usages-là. Comme on est une boîte de logiciels, on peut effectivement envoyer nos délivrables à travers le monde très rapidement. En tout cas, nos produits ne sont pas bloqués en douane. On peut continuer le business sereinement avec le Japon et répondre à cette exigence qu'ils ont mis en place.
Pourquoi IoT Europe ?
IoT Europe, le nom vient de la contraction de IoT, donc Internet des objets, Internet of Things en anglais, et l'interopérabilité, donc Interop, hein, qui est vraiment notre vision. Nous, on croit beaucoup à la standardisation. Comme on l'a connu dans la téléphonie mobile, les standards ont permis l'émergence de milliards de téléphones mobiles et de smartphones. Tous les réseaux sont compatibles aujourd'hui avec tous les smartphones qu'on peut trouver sur le marché. Eh bien, il y a beaucoup de fragmentation encore dans l'Internet des objets. Et aujourd'hui, on croit effectivement que ces standards, hein, de la 5G, des réseaux dimensionnés pour accueillir des milliards d'objets, et la condition sine qua non à l'avancée de ce marché, c'est l'interopérabilité. C'est vraiment nous, notre participation hein, dans les organismes de standardisation internationaux pour permettre l'avènement de milliards d'objets connectés autour de nous et qui soient tous compatibles et qui parlent le même langage.